Mehdi Piquant.
La Syrie est désormais aux mains de terroristes. La déclaration est signée Bachar al-Assad dans un communiqué diffusé sur la chaîne Telegram de la présidence. C'est la toute première fois qu'il s'exprime depuis sa fuite de Damas il y a une semaine. Bachar al-Assad a encore précisé que son départ de Syrie n'était pas planifié et que c'est la Russie qui avait demandé son évacuation. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la frontière en Israël, des sirènes ont retenti tout à l'heure dans le centre de Tel Aviv. Un missile a été lancé depuis le Yémen par des rebelles houthis. Il a pu être intercepté, indique l'armée israélienne. Les sirènes ont retenti de manière préventive en vue de possibles chutes de débris au sol. En Suisse, vous en faites peut-être partie. Les pendulaires qui prennent le train ont changé ce matin leurs habitudes dans le calme. C'est en tout cas le bilan fait cet après-midi par les CFF après l'entrée en vigueur ce week-end du nouvel horaire. En Suisse romande, c'est le plus important changement des 20 dernières années avec plus de trains et des trajets parfois plus longs également. La ponctualité est qualifiée de bonne par la compagnie ferroviaire. À Genève, le Conseil d'État est remonté contre le travail de la Cour des comptes. Le gouvernement réagit suite au rapport publié ce matin par le gendarme de l'administration publique. Une Cour des comptes qui pointe de nombreuses irrégularités dans l'attribution de mandats externes sollicités par l'État de Genève. Le gouvernement, lui, refuse la plupart des recommandations. Il dénonce un rapport biaisé réalisé avec un vocabulaire tendancieux. Les hôtels suisses font le plein. Le nombre de nuitées a bondi de plus de 6% le mois dernier par rapport à 2023. L'Office fédéral de la statistique explique aujourd'hui cette hausse par une forte demande des hôtes indigènes qui boostent les chiffres. À ce rythme, l'hôtellerie suisse pourrait carrément dépasser son record annuel de près de 42 millions de nuitées. Il avait été réalisé l'an dernier en 2023. L'actualité, c'est aussi la course contre la montre qui se poursuit à Mayotte pour secourir les sinistrés du cyclone Chido. Il a dévasté cet après-midi l'archipel français de l'océan Indien ce week-end. Le bilan provisoire est pour le moment très difficile à établir, mais les autorités craignent plusieurs centaines de morts. Une réunion de crise est d'ailleurs prévue ce soir au ministère de l'Intérieur à Paris pour évoquer la situation. Et en France toujours, c'est la fin d'un procès retentissant, celui des viols de Mazan. Les accusés ont eu ce matin l'opportunité de présenter une dernière fois leurs excuses à la victime, Gisèle Pellicot. Son mari, Dominique Pellicot, a quant à lui prié sa famille d'accepter ses excuses. Il a aussi salué le courage de son ex-femme qu'il avait droguée pendant une décennie pour la violer et la livrer à des dizaines d'hommes recrutés sur Internet. Le verdict de ce procès est attendu pour ce jeudi. Retour en Suisse avec une formation à l'autonomie pour les personnes en situation de handicap. C'est ce que proposera le canton du Jura à partir du mois de janvier. Les autorités ont présenté aujourd'hui un nouvel espace qui ouvrira du côté de Porrentruy. Faire son ménage ou encore gérer mieux, au mieux ses finances, cette nouvelle structure vise à renforcer l'indépendance des personnes en situation de handicap. Et puis du hockey sur glace avec Rapperswil qui a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Johan Lundskog, le canado-suédois était l'assistant de Stefan Edlung, limogé il y a 9 jours par le club saint-gallois. Il se retrouve à la tête d'une équipe en difficulté, avant-dernier du classement de National League. Météo majoritairement ensoleillé aujourd'hui en Suisse romande, sauf sur l'arc jurassien où le ciel est un peu voilé. Température aujourd'hui entre 5 et 7 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Du 14 au 20 décembre, la RTS et la chaîne du bonheur se mobilisent contre les violences faites aux enfants, en Suisse et dans le monde, avec l'opération Cœur à Cœur. Une campagne de dons dans plus de 7 villes romandes, des dizaines de bénévoles pour une action unique, 70 heures de direct sur les antennes de la RTS. Rejoignez-nous près de chez vous et sur toutes nos plateformes. Parce que face à la maltraitance infantile, donner est un jeu d'enfant. Faites un don sur coeur.rts.ch.
L'oreille d'abord, Catherine Buzer.
Et à la régie, Sacha Unger. Bonjour, bienvenue. En relisant les mémoires de Dmitri Chostakovitch, compilées par Solomon Volkov, je suis tombée sur une photographie qui a retenu toute mon attention. On y voit les trois plus grandes figures de la musique de l'époque soviétique, assis l'un à côté de l'autre. À gauche, Serge Prokofiev, au centre, Dmitri Chostakovitch, et à droite, Aram Khachaturian. La photo a été prise en 1945, à Moscou. Elle est accompagnée d'une légende qui résume le sujet en ces termes. Trois titans de la musique soviétique. Ils étaient ennemis, ils étaient amis. Ennemis ou amis ? Cette dualité m'a donné l'idée de consacrer une oreille d'abord aux liens qui unissent ces trois compositeurs et puis ensuite d'élargir le propos pour aller à la rencontre de quelques-uns des amis de Dmitri Chostakovitch. Pour étayer mon histoire, je me suis appuyée sur les souvenirs que Chostakovitch a légués au musicologue Solomon Volkov. Ses mémoires sont un document exceptionnel. Il nous offre le témoignage unique d'un artiste qui a vécu toute sa vie à l'intérieur du système communiste. Non seulement Chostakovitch parle de son activité créatrice, mais aussi de son quotidien, de ses craintes et de l'univers d'hypocrisie et de terreur dans lequel il a vécu. Il y évoque également ses relations avec les plus grands musiciens de son temps, le tout égayé de nombreuses anecdotes. Et c'est bien sûr le héros du jour, Dmitri Chostakovitch, qui a l'honneur d'ouvrir les feux.
Thank you.
Une ouverture de fête signée Dimitri Shostakovich. Andris Nelsons dirigeait l'Orchestre symphonique de Boston. Les mémoires de Shostakovich méritent franchement qu'on s'y intéresse. C'est une mine d'informations pour comprendre le contexte politique dans lequel le compositeur a exercé son art. Shostakovich a dicté ses souvenirs à un jeune et brillant musicologue soviétique, Solomon Volkov, qui, pendant les années précédant la mort du compositeur, a travaillé avec lui pour faire surgir de sa mémoire tout un passé qu'il estimait devoir raconter et livrer au public. Volkov a soigneusement noté ses souvenirs, les a mis en forme et les a préparés pour la publication, tout en conservant la manière de s'exprimer du compositeur. On y entend ainsi la voix et le langage spontané, parfois abrupt, de Shostakovich. Ses souvenirs dressent ainsi le tableau d'un univers d'hypocrisie, de terreur, effrayant parfois, mais souvent plein d'humour. De nombreuses anecdotes égayent ses souvenirs, parmi lesquelles certaines sont en lien avec ses amis musiciens. Shostakovich nous offre ici des portraits très vivants des compositeurs qu'il a connus et côtoyés. Ces artistes ont pour nom Prokofiev, Stravinsky, Glazounov, Khatchatourian, Alban Berg, Gustav Mahler et même Darius Milhaud. Et ce sont ces souvenirs que je vous propose de relire en musique aujourd'hui.
Thank you.
Le premier mouvement allegro du deuxième concerto pour piano et orchestre de Chostakovitch. Denis Matsouyev en était le soliste, accompagné par l'orchestre du théâtre du Mariinsky, direction Valérie Gergiev. Aram Khatchatourian est le premier de ces compositeurs dont Chostakovitch brosse le portrait dans ses souvenirs. Ce compositeur figure d'ailleurs sur cette photo qui me sert aujourd'hui de fil conducteur. Il est assis à gauche de Chostakovitch. D'origine arménienne, Khatchatourian compte certainement au nombre des amis les plus chers de notre compositeur. Ils ont entretenu une relation d'une qualité constante qui a duré plus de 40 ans. Elle a survécu à toutes les tempêtes qu'ils ont dû affronter chacun de leur côté. De 3 ans plus âgé que Chostakovitch, Khatchatourian a lui aussi été pointé du doigt pour ses tendances formalistes, au même titre que son ami, mais aussi que Prokofiev et Mayakovsky, leur professeur au conservatoire. Chostakovitch et Khatchatourian se sont rencontrés en juin 1934 dans le train qui les conduisait à Bakou. Dans une lettre, Chostakovitch confie qu'Aram s'était avéré un parfait compagnon de voyage, qu'ils avaient dîné ensemble dans le wagon-restaurant. Il assure qu'il avait largement préféré son collègue au repas qu'on leur avait servi. Visiblement, la sauce a pris très vite, puisque malgré des tempéraments fort différents, les deux hommes vont développer une longue et belle amitié. Il faut dire que les sujets de conversation ne leur manquent pas, et leurs préoccupations sont très proches. Lorsque Chostakovitch s'installe dans un appartement proposé par l'Union des compositeurs, il a le plaisir de découvrir parmi ses proches voisins son ami Khatchatourian, qui habite à l'étage inférieur, au 5e. Et il y a également Dimitri Kabalevski. À cette époque, Chostakovitch rêve de s'acheter une datcha à Yukova, une petite ville située non loin de Moscou, bien qu'en ce temps-là, posséder une datcha était seulement réservé à une élite. Or, sa situation financière était désastreuse et constitue un obstacle de taille. Chostak raconte alors qu'il était si proche de Khatchatourian qu'il lui a demandé de lui prêter de l'argent, ce que l'auteur de Gaïanet a accepté généreusement, en recommandant de ne plus y faire allusion. Il avait même essayé de le conseiller pour faire des économies, mais Dimitri aurait décliné et payé plus que nécessaire. Il remboursera progressivement ses dettes à Khatchatourian. À plusieurs reprises, Aram a été amené à soutenir Chostakovitch et prendre sa défense auprès de l'Union des compositeurs. Il lui a fallu certainement beaucoup de courage pour s'opposer aux décisions lapidaires de Staline. Lorsque Chostakovitch devait quitter ce monde, Khatchatourian, accompagné de son épouse, a assisté aux funérailles. Ils déposèrent des fleurs et se sont rapprochés d'Irina, la veuve, et des intimes. Aram Khatchatourian disparaîtra 3 ans plus tard, en 1978 à 75 ans, dans la même ville. Leur amitié aura perduré pendant plus de 40 ans. Le mouvement lent, Andante Sostenuto, du concerto pour violon et orchestre d'Aram Khatchatourian. Julia Fischer en était la soliste, accompagnée par l'Orchestre National Russe, direction Yakov Kreitzberg. Sur la photographie, qui nous sert de fil conducteur aujourd'hui, figure aux côtés de Shostakovich et de Khatchatourian un troisième larron. Il s'agit de Sergueï Prokofiev. Il est assis à la droite de Shostakovich et a l'air très sérieux avec ses petites lunettes et sa cravate. Si Khatchatourian appartient au cercle des amis de Shostakovich, ce n'est pas vraiment le cas de Prokofiev, que Dimitri ne semblait pas beaucoup apprécier. D'où la légende qui accompagne la photo prise, je le rappelle, à Moscou en 1945. Ils étaient amis, ils étaient ennemis. Dans ses mémoires, Shostakovich consacre néanmoins plusieurs pages à Prokofiev. Il confesse ouvertement qu'il n'a jamais réussi à se lier d'amitié avec l'auteur de la suite Suite, peut-être, dit-il, parce que ce n'était pas dans le caractère de Prokofiev d'établir des liens amicaux avec ses pairs. Prokofiev, dit-il encore, était un homme sec, qui visiblement ne s'intéressait à rien, hormis à sa propre personne et à sa musique. « Je déteste qu'on me traite avec familiarité », nous dit Shostakovich. Prokofiev n'aimait pas cela non plus, mais se permettait d'être extrêmement hautain avec les autres. Shostakovich accuse encore son rival d'avoir le caractère d'un enfant prodige capricieux, d'être hargneux comme un roquet et de tout le temps chercher la bagarre. Il voulait me faire mordre la poussière et prouver que Prokofiev était capable d'écrire un véritable opéra soviétique sans toutes ces grossièretés qu'on appelle naturalisme. Bien sûr, cela n'a pas contribué à améliorer nos rapports ni à créer une atmosphère amicale. Avec son sens de l'humour caustique, Shostakovich ne peut s'empêcher de relever que Prokofiev avait des tics de langage. Ses deux expressions favorites, dit-il, étaient « amusant » et « vous comprenez ». Prokofiev qualifiait n'importe quoi d'amusant, les gens, la musique, les événements, tout, même la musique de Wojtek d'Albanberg. Cela agaçait passablement Shostakovich qui s'en offusque. Mais qu'est-ce que c'est que ce dictionnaire de cannibale ? Concernant la musique, Shostakovich se montre ici aussi assez retenu, estimant que s'il a pu un temps apprécier la musique de Prokofiev, ses goûts ont considérablement changé au fil du temps. Beaucoup d'œuvres de Prokofiev que j'aimais autrefois me semblent maintenant avoir terni. Il avoue que la musique de Prokofiev le laisse assez froid et qu'il écoute ses œuvres sans grand plaisir. Il l'accuse également de ne lui avoir pas prêté beaucoup d'attention et lorsqu'il daigne lui accorder un peu de temps, de ne pas s'être gêné de porter sur ses œuvres des jugements sans appel et de critiquer les autres compositeurs avec dureté. Mais Shostakovich n'est pas plus tendre et se montre également très critique. De Serge Prokofiev, voici le moderato de la sonate pour flûte et piano.
Thank you.
Le moderato de la première sonate pour flûte et piano en ré majeur de Sergueï Prokofiev. Sharon Bezali était accompagnée par Vladimir Ashkenazy. Merci d'écouter Espace 2. L'oreille d'abord explore aujourd'hui le cercle des amis de Dimitri Shostakovich sur la base d'une photographie prise à Moscou en 1945. Shostakovich et Prokofiev étaient donc un peu comme chat et chien et n'hésitaient pas à se critiquer mutuellement. Shostakovich disait que la musique de Prokofiev le laissait froid et qu'à son homologue russe, il préférait très largement l'autrichien Gustav Mahler. Le génie de Mahler, raconte-t-il dans ses mémoires, relègue Stravinsky lui-même au second plan et à plus forte raison Prokofiev. Mahler et Prokofiev sont totalement incompatibles. En effet, Shostakovich considérait Mahler comme un dieu, un maître dont il se voulait être en quelque sorte l'héritier. Il affirme encore dans ses mémoires que l'étude des symphonies de son illustre aîné a considérablement modifié ses goûts musicaux. Mais pour des raisons politiques, il n'affiche jamais ouvertement son admiration pour le compositeur autrichien. Par peur des représailles, il n'a laissé que quelques lignes à son sujet, aucun écrit important. Il met toutefois les lecteurs sur la piste en indiquant que le compositeur autrichien a exercé sur lui une certaine influence. Mais cela ne l'a jamais empêché de faire étudier à ses élèves les partitions de Mahler. Le compositeur russe Edison Denisov, qui fut l'un d'eux, rapporte que son maître, dans les derniers jours de sa vie, alors qu'il était à l'hôpital, écoutait en boucle le chant de la terre de Mahler jusqu'à le connaître par cœur. Shostakovich, dit-il, considérait le dernier tableau, Abschied, comme la pièce la plus originale de toute l'histoire de la musique. Il en a d'ailleurs repris l'idée dans sa quatrième symphonie. De Gustav Mahler, voici Der Einsame im Herbst, c'est le deuxième lied du chant de la terre. Der Einsame im Herbst, le deuxième lied du Chant de la Terre de Gustav Mahler. Jonas Kaufmann en était le soliste, accompagné par les Wiener Philharmoniker, direction de Jonathan Nott. Gustav Mahler et Dmitri Shostakovich avaient certainement de nombreux points communs, notamment un goût avéré pour le grotesque et la caricature. Dans les souvenirs laissés par Dmitri Shostakovich, on apprend encore que notre compositeur avait beaucoup d'admiration pour le compositeur viennois Alban Berg. Les deux artistes se sont rencontrés, notamment à l'occasion de la venue de Berg à Leningrad pour la création de son opéra Voïtsek. Shostakovich dit s'être régalé et n'avoir manqué aucune des 8 ou 9 représentations qui furent données. Le compositeur russe avait une telle admiration pour cet opéra que bon nombre des critiques lui ont reproché d'avoir subi son influence lorsqu'il compose ses propres opéras. Dans ses mémoires, Shostakovich s'en défend en citant Tchekhov. « Lorsqu'on vous sert du café, n'essayez pas d'y trouver de la bière. Lorsqu'on écoute le nez ou